Ce matin, j'ai prévu quelque chose de pas habituel. Avant toute chose, on va ouvrir la parole. Et j'ai beaucoup de grave là, si tu peux enlever un peu. Alors, on va ouvrir la parole. En introduction à ce message, j'aimerais repartir sur la pensée qu'on a... On est intervenu la semaine dernière, moi et Frédéric, pour recaler certaines choses, on va dire. Et cette semaine m'est venue à l'esprit cette réflexion au sujet de la marque, parce que beaucoup, et je l'espère ce matin parmi nous, le message de la semaine dernière a bien été entendu, mais ça trottait encore dans mon esprit. Et je réfléchissais à l'actualité, à tous ceux et celles qui sont un peu tétanisés par cette notion de marque de la bête, etc., de voir ce qui se passe en ce moment. Des personnes qui ont peur, beaucoup, qui sont angoissées à cause de leur santé. C'est important la santé, on est tous d'accord. C'est le Seigneur qui nous donne la bonne santé, oui ou non ? On est tous d'accord. Mais on a peur d'être malade. Et certains n'ont même pas passé ce cap, ils n'ont pas peur d'être malade, ils sont angoissés, épouvantés peut-être par même l'idée d'être malade, ou à l'idée de se faire faire une piqûre, j'en sais rien. Je vais équilibrer, comme ça il y en a pour tout le monde. Et devant cette réflexion fausse, hein, je le répète, la marque de la bête, ça n'a rien à voir avec le vaccin, le passeport vaccinal, etc. J'enfonce le clou. Mais néanmoins, je crois que peut-être ce qui me surprend, en fait, c'est qu'on se retrouve à réfléchir à ce sujet, on se retrouve à se poser des questions sur ça, sur la marque de la bête, entre autres, sur les événements de la fin, et on ne réalise même pas qu'on porte en nous d'autres marques qui sont tout autant dangereuses. Alors on va lire ensemble dans Romains, au chapitre 6. Alors si vous suivez dans vos Bibles, vous pouvez rester dans Romains, parce qu'on lira quelques textes dans Romains. Et Romains, au chapitre 6, au verset 16, Paul pose une question et dit ceci. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Deux chemins opposés. Et la notion d'esclave est importante, parce que quand Paul parle de l'esclave dans la parole, on a des choses qui nous montrent chez les Juifs qu'est-ce qu'il devait faire l'esclave, celui qui décidait de rester chez son maître, qu'est-ce qu'il devait faire? Est-ce que certains le savent? Ouais, une boucle d'oreille. On va dire ça comme ça. Il devait se faire poinçonner l'oreille sur le montant de la porte et il avait un signe visuel qu'il était esclave. Il était marqué. Dans l'Antiquité, les mots qui sont utilisés pour parler de la marque sont des mots qui évoquent un tatouage au fer rouge. D'ailleurs, le mot qui signifie ça, c'est le mot stigma, qui nous a donné en français les stigmates, les marques de souffrance. Et un esclave était toujours marqué. Maintenant, la Bible dit que nous n'avons pas le choix. D'un côté, on est esclave du péché, mais il est possible d'être esclave de quelqu'un d'autre. Et ce maître-là, il est bon. Et il est bon de vouloir le servir. Cette marque, elle est là indélébile sur nous. Et il y a des textes hein, qui nous indiquent ces marques-là. J'aimerais lire avec vous un autre passage dans 1 Timothée, gardez Romains, hein, ou sinon je vous le cite, 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. L'Esprit dit expressément que, je lis ça parce qu'on y est là, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Je crois que c'est pour ma première prédication ici, je crois que j'avais parlé de la conscience, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et j'avais évoqué que cette conscience, elle nous a été donnée par Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qui fait notre différence des animaux. Cette conscience qui est ce témoin invisible pour lequel il nous vaut mieux être en paix. Cette conscience qui fait que certains en arrivent à se supprimer la vie parce qu'ils ne sont pas en paix avec leur conscience. Parce que malheureusement, cet accusateur, il revient à la charge. On a beau essayer de le faire taire par moment, il est toujours là. Il est toujours à nous dire, il y a un problème. Et cette conscience, malheureusement, elle peut être déformée. Elle peut aussi être abîmée. Ici, quand il est question de la flétrissure, la marque de la flétrissure, le mot d'origine a donné en français le mot cautériser. Donc cautériser, ça veut dire que, on va demander aux infirmières ou aux médecins, mais il me semble que c'est la marque de la plaie pour laquelle il y a une brûlure, et il peut y avoir, dans le passé, on essayait de guérir les plaies comme ça, en cautérisant, en brûlant, en cuisant. Ça faisait une marque. Et parfois, ça se passait mal, ça s'infectait. Et on en est revenu de la cautérisation, heureusement. Et ici, c'est exactement ce qui peut se passer dans nos consciences quand on commence à remettre en question certaines choses que Dieu nous a données. Quand on commence à s'écarter de ce que Dieu a voulu nous dire, des bornes qu'il nous a données, qui ne sont pas là pour nous faire du mal, mais au contraire, qui sont un espace vital, un espace de liberté dans lequel on se sentira bien. C'est comme si je disais, voilà, vous foncez sur la route et à un moment donné, il y a un panneau qui vous indique, hey, ralentissez, il y a un gros virage qui va suivre. Et nous, on aurait le toupet de se dire, mais je fais ce que je veux, si je veux conduire vite, je conduis vite, mais conduis vite si tu veux. Mais ce qui risque de se passer, c'est l'accident. Et les bornes que Dieu nous a données, c'est exactement dans ce sens. Parce que Dieu, il veut que nous gardions la vie. Et le danger de ces faux docteurs, alors on peut parler d'enseignants, c'est vrai, mais au jour d'aujourd'hui, on est tous des docteurs, parce qu'on se voue tous à toutes sortes de personnes, que ce soit sur YouTube, que ce soit où vous voulez. On écoute qui on veut et on s'attribue des docteurs et on reprend leurs arguments s'il faut. Et on se fait nous-mêmes docteurs. Et on ne se rend pas compte que ces personnes, sur certains points, dont on ne peut pas se rendre compte parce qu'on ne connaît peut-être pas suffisamment la parole, on se retrouve biaisé, à côté, et on commence à enseigner des choses avec sincérité parfois. Mais on commence à sortir de la voie que Dieu nous a donnée. Et c'est dangereux. C'est dangereux. C'est la marque, quelque part, de ce qu'on trouve aujourd'hui, où on a une foule de docteurs. Est-ce qu'on n'a pas une foule de docteurs aujourd'hui? Allez sur YouTube, vous verrez. La conscience est abîmée pour ces personnes, parce qu'elles se sont écartées. Et c'est le risque pour nous-mêmes, quand on commence à nous écarter. Regardons ensemble juste ce verset qui résume un peu le travail de la conscience, tel que Dieu l'a prévu, Romains chapitre 2, verset 15. Où l'apôtre Paul décrit ici l'attitude de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et il essaie de démontrer que même ceux qui n'ont pas eu connaissance écrite de Dieu, par la parole de Dieu, ils ont une connaissance innée de Dieu, en ayant une humilité de cœur, en regardant le livre de la parole de Dieu qui est dans la nature. C'est un des livres, c'est une des révélations que Dieu nous a données. Parce que quand on commence à s'y arrêter, on ne peut que se rendre à l'évidence de la grandeur de l'ingénieur et de la grandeur de l'artiste. Les deux en un. Les merveilles de Dieu. Et Dieu nous a aussi donné cette conscience qui nous permet justement d'avoir ces bonnes réflexions. L'apôtre Paul écrit, ils démontrent par leur comportement que leurs œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne. La conscience est un témoin. C'est cette personne, je ne suis pas le seul à la voir, on l'a tous, cette personne qui nous dit ce que tu fais, là ça ne va pas. Cette conscience qui témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Et cette conscience, elle est là pour nous témoigner de ce qu'on fait et nous dire, nous rappeler à l'ordre. Elle est là pour nous avertir, elle est là pour nous conseiller. Encore faut-il que cette conscience soit forgée comme il faut. J'ai pris un autre texte, on peut le lire ensemble, celui-là, gardez Romains quand même, mais j'avais à cœur de le lire parce que ça révèle, c'est dans un autre contexte, mais je trouve que ça symbolise bien le travail de la conscience. Ézéchiel, chapitre 33, verset 1er. Alors, pour ceux qui suivent, il y a les psaumes, les proverbes, Ecclésiaste. Vous arrivez au premier gros livre, Ésaïe. Ensuite, il y a Jérémie. Et après, vous arrivez sur Ézéchiel, après les Lamentations. Ézéchiel 33, chapitre 1er, 33, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils d'homme, parle aux gens de ton peuple. Tu leur diras, lorsque je fais venir l'épée contre un pays et que le peuple du pays prend dans ses rangs quelque homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée contre le pays, sonne du cor et avertit le peuple, et si celui qui entend le son du cor ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son du cor et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Celui qui se laisse avertir sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas du cor, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël, tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Remarquez ce verset 7 qui nous dit tu écouteras les paroles qui sortent de ma bouche. Et c'est comme ça que notre conscience sentinelle doit se forger. Et c'est ainsi qu'elle pourra accomplir pleinement son rôle. C'est ainsi que, par exemple, quand on apprend des versets par cœur, et que nous sommes une conscience qui est forgée dans la parole, alors que notre conscience nous rappelle des versets dans certaines situations, ça vous est arrivé ? Moi, ça m'arrive. Et souvent, ça me reprend. Hop là. La parole devient vivante par la conscience. C'est là qu'elle prend vie, la parole. Elle prend vie quand, l'ayant entendue par ma conscience, je la mets en pratique. Mais malheureusement, quand elle n'est pas forgée dans la parole, elle est flétrie. Cette conscience ici, comme on l'a vu dans ce passage d'Ézéchiel, c'est une sentinelle. Et quand on avertit quelqu'un, le but, c'est pas de l'enfoncer, c'est pas de marcher dessus. Quand on avertit quelqu'un, c'est qu'il court un danger et qu'on veut lui éviter des problèmes. On veut lui éviter des misères. Et notre conscience, elle est là pour nous rappeler à l'ordre. Vous voyez que ici, cette conscience forgée dans la parole va sans relâche nous avertir. Sans relâche. Elle ne nous laissera pas tranquille. Tant qu'on n'a pas réglé la chose, à moins qu'on ait essayé par nous-mêmes de l'étouffer parce qu'elle nous dérange. Ça, c'est un autre sujet. Et c'est justement quand cette conscience est marquée, flétrie, cette sentinelle n'accomplit plus sa tâche correctement. Elle nous accuse pour des raisons valables, mais des fois pour des raisons qui ne sont pas valables. Parce qu'on l'a habitué à autre chose, à un autre standard. Et elle est un peu perdue. Elle va nous guider selon certaines voies, mais pas toujours les bonnes. Parce qu'on l'a enseignée avec des choses qui ne sont pas de Dieu. Elle est déformée, elle est flétrie. Et ce bon conseiller, il a besoin d'être guéri. Parce que sinon, malheureusement, il va nous amener à la mort. Reprenons Romains. Ici, je parle d'une marque qui est sur notre conscience parce qu'on l'a déformée ou on l'a laissée se déformer. Et l'apôtre Paul décrit justement ce processus, parce que c'est un processus. Ce qu'on va lire, on l'a vécu en France, au niveau sociétal, au siècle des Lumières, ou alors au siècle des Ténèbres, je ne sais pas, vous choisissez. On a commencé à mettre Dieu de côté. Seulement, quand on commence à mettre Dieu de côté, ça soulève tout un tas de questions, parce qu'il faut résoudre à nouveau certains problèmes, parce qu'avant, on avait la réponse. Mais mettant Dieu de côté, il faut réfléchir, il faut raisonner, il faut essayer de calculer, parce qu'ayant mis Dieu de côté, il faut bien trouver des explications aux choses. Et c'est tout l'enjeu de ce siècle-là. Mais regardez le siècle des Lumières, où on a mis Dieu de côté, on a créé la laïcité. Excusez-moi, mais... Et on s'est basé là-dessus pour essayer de construire notre société. Regardez où elle est aujourd'hui. Regardons où elle est aujourd'hui. Regardons les lois qu'on adopte. Maintenant, on va lire ensemble ce texte. Et ce que je dis à l'échelle sociétale, c'est valable à l'échelle personnelle aussi. Parce que quand je commence à remettre en cause certaines choses de la parole, quand je commence à essayer de mettre de côté des passages qui me dérangent parce qu'ils me montrent que dans ma vie, il y a des choses qui sont mauvaises, qui ne plaisent pas à Dieu, etc. Ça me dérange, alors je ne le prends pas, je le mets de côté. La parole de Dieu, on la prend en entier. Et c'est le seul moyen d'être dans la vie que Dieu veut nous donner. C'est le seul moyen. On n'a pas à mettre de côté ce qui ne nous plaît pas. Et quand on commence à avoir ce comportement, on est sur une pente glissante, on va se dégrader. C'est un texte qu'on lit peu, mais j'ai à cœur de le lire ce matin parce que ça met aussi, ça recale certaines choses. Aujourd'hui, le péché, on ne sait même plus ce que c'est. On ne veut même plus le prêcher parce qu'on a peur de la loi aussi. Excusez-moi, frères et sœurs, mais on va lire ce texte. Romains chapitre 1, verset 19. Je vais vous le lire dans la version français courant. Je pense que à la lecture de ce texte, on doit tous se retrouver quelque part, un endroit ou un autre. Pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle, sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Le livre de la parole, la révélation de la nature, par exemple. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. On met Dieu de côté. Et ensuite, on essaye de continuer la route. Regardez ce que ça fait. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu, remarquez d'ailleurs l'ordre, hein, l'homme, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles, ça remonte un peu l'histoire, tout ça. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures. Il les a laissés faire. En fait, ce que Dieu a fait, c'est qu'il ne les a pas punis. Il les a laissés continuer. Et le but de ce que Dieu fait ici, c'est que chacun réalise à son niveau quand il a fait fausse route. C'est le seul but que Dieu poursuit quand il nous laisse couler, quand il nous laisse faire. Il veut qu'à un moment donné, alors qu'on se met dans des situations... mauvaise pour nous, des situations parfois terribles, à un moment donné, on réfléchisse sur notre état et qu'on réalise qu'en fait, on s'est planté. C'est ça que Dieu poursuit quand il nous livre à ces choses. Et Dieu a laissé l'homme, il l'a livré. Et on continue. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures, selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent les relations naturelles en des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes par des maladies. C'est une des choses. Ça, c'est pour le corps. Et pour l'âme et l'esprit, c'est encore autre chose. Ils reçoivent en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. La Bible est claire. La Bible est claire sur certaines choses. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée. Et ainsi, ils font ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal. Alors peut-être là dans cette liste, on va pouvoir se retrouver hein, les uns les autres. Injustice, mal, envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malice. Ils lancent de fausses accusations et disent du mal les uns des autres. Est-ce que ça arrive, ça, qu'on dise du mal les uns? Oui, ça arrive, même dans les églises, ça arrive. La Bible dit, ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantards, toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont rebelles à leurs parents. Est-ce qu'aujourd'hui on le voit? Ingénieux au mal, dit une autre version, vous l'avez peut-être lu dans votre Bible, ingénieux au mal. Déjà, être ingénieux, c'est pas mal, mais ingénieux pour faire le mal. Ça veut dire qu'il y a toute une notion de calcul, de bien prévoir, etc. Ingénieux. Quand c'est ingénieux, ça veut dire que c'est bien fait quand même. Ingénieux au mal. Un plan qui se déroule sans accroc pour le mal. Ils sont inconstants. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions. Et de plus, ils approuvent ceux qui les commettent aussi. Voilà la marque du péché, frères et sœurs. C'est la marque du péché. On a peur de la marque de la bête alors qu'on a une marque en nous qui nous amène à la mort. Et on s'en inquiète pas. On fait n'importe quoi de notre vie. On s'inquiète de choses dont on ne devrait pas s'inquiéter. On a mis Dieu de côté. Et à la place, on fait autre chose. Jésus a dit, je vous le cite, Matthieu 10, 28, « Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. » La Bible est claire et elle dit que le salaire du péché, c'est la mort. Notre Seigneur aussi a été marqué. Et on va prendre la scène avant que je continue le message. Frères et sœurs, des fois on se lève pour chanter. Je vous demanderai de vous lever pour la lecture de quelques textes de la parole. Qu'on puisse réfléchir à ses marques à lui, pour que nous soyons sauvés. D'abord, ce texte qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné, j'appellerai quelques frères, c'est vrai que j'ai oublié de nommer des frères, si deux ou trois voulaient bien s'avancer pour servir la scène. Voilà. Je continue. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est la vie éternelle. » Dieu prouve son amour en ce que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. J'aime citer « Pendant qu'il mangeait », et là on est en train de manger, là. On est en train de prendre le message que Dieu nous a donné, et nous aussi pendant qu'on mange, on va prendre le repas du Seigneur, pendant qu'on mange. Qu'est-ce que Jésus a vécu? Des laboureurs ont labouré mon dos, Ils ont tracé de longs sillons. Je ne sais pas si ça vous parle, cette image. Ce sont les fouets de la flagellation, qui n'étaient pas de simples lanières de cuir. Au bout, il y avait des clous. Et il y a eu de longs sillons dans son dos. Voilà des marques qui sont sur le Seigneur. Certains chercheurs qui ont réfléchi sur la crucifixion et sur la flagellation, etc., ont même dit que le dos pouvait s'ouvrir parfois. Et que le bois rugueux d'une croix pouvait vraiment être douloureux du fait que le dos s'est ouvert à cause du fouet. Cet autre psaume qui nous dit aussi « Les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, ce que j'ai lu tout à l'heure. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et même dans son corps glorifié, Jésus va dire à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Même dans son corps glorifié, on peut encore voir ses marques. Les marques du péché qu'il a prises sur lui. Les marques de mon péché qu'il a pris sur lui. Pour que moi, je sois propre, tout neuf. On remercie le Seigneur ensemble pour ce repas. Le pain qu'on prend, ça nous représente son corps qui a été brisé. Le vin qu'on prend, c'est sa vie qu'il a donnée pour que nous puissions être sauvés de notre péché. Et j'aimerais te dire, toi, cher ami, peut-être, qui est au milieu de nous, qui n'a pas compris peut-être, Jésus est venu sur la terre pour mourir pour toi. Il te suffit simplement de croire que ce qu'il a fait, c'est la réalité. Il te suffit simplement de croire que par son sacrifice à la croix, tu peux être sauvé. Et en croyant, tu reçois la vie éternelle. Le croire pas simplement là, mais là. Et comme c'est dur de croire au cœur, tu peux prier le Seigneur et dire, Seigneur, aide-moi à comprendre. Révèle-moi qui tu es, que je puisse comprendre cette affaire. Et ça, je vous encourage à faire cette prière pendant ces moments. Si vous ne faites pas partie, si vous n'avez pas pris votre baptême, vous ne faites pas partie, vous n'avez pas fait cette expérience, je ne vous encourage pas à participer à ce repas parce que vous mentiriez. Je peux vous faire mentir. Que ceux qui sont en règle avec Dieu puissent, avec joie, prendre part à ce repas. On va prendre un chant après, pendant ce temps-là. C'est trop simple. Un enfant le comprend, mais nous, on a du mal. Parce qu'on est trop compliqué. Et on a besoin d'une révélation de Dieu. Et je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, à vraiment lui demander à ce qu'il se révèle à votre cœur. Et quand Dieu se révèle à nos cœurs et qu'on est dans cette position d'humilité, qu'on considère que peut-être il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous, petit roi Tolet que je suis, je commence à descendre de mon piédestal pour mettre le roi des rois à sa place. Là, il y a quelque chose qui change, parce que je change de maître, je change de propriétaire. Et changeant de propriétaire, étant donné que je me suis identifié à Christ dans sa mort, il m'est possible de changer de propriétaire. Et je suis marqué à mon tour par mon nouveau maître. Et ça, c'est une bonne marque. C'est une bonne marque. Je cite 2 Corinthiens, chapitre 1. Versets 21 et 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ça veut dire que Dieu nous a changés de l'intérieur. Les changements extérieurs vont se voir par la suite, parce que quand l'intérieur est renouvelé, eh bien, il y a toujours des choses qui se voient à l'extérieur. Quand l'intérieur est sain, l'extérieur est sain. Un autre texte, Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand on scelle quelque chose, c'est vraiment qu'il n'y a plus accès après. C'est scellé, c'est terminé, c'est marqué à vie. Et nous qui avons cru, quand on a fait je parle justement d'une expérience profonde avec Dieu. Quand on a fait cette expérience, l'abandon est beaucoup plus difficile. Parce que le Saint-Esprit en nous nous montre à changer notre regard sur les choses. Et on va commencer à s'intéresser à Dieu, à ce qu'il dit, à ce qu'il pense, quel est son caractère, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Parce que mon intérieur a été changé. Et je ne le fais pas pour essayer de le connaître avant. Mais comme il m'a changé de l'année, j'ai au moins compris par le Saint-Esprit ce qu'il a fait pour moi, dans son amour et sa grâce. Et me voilà changé. Me voilà marqué par son esprit. Et celui qui est marqué ainsi, il est épargné de la mort. Cet autre verset dans Éphésiens, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ça veut dire, la rédemption, c'est que Dieu paye pour nous racheter. C'est Dieu qui nous marque. Et quand Dieu me marque, quand Dieu me touche, c'est pas pour la mort, c'est pour la vie. Parce que Dieu, il donne la vie. Celui qui s'approche du Seigneur Jésus, il reçoit la vie. Et j'aimerais ce matin, si tu ne l'as pas compris, que tu puisses le réaliser. Et quand on prend la décision de nous engager, la semaine dernière, on a eu un baptême, et l'apôtre Pierre, il dit aussi celui-ci, il dit cette chose, « C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. » C'est 1 Pierre 3, 21. « Ces événements préfiguraient le baptême, celui qui ne consiste pas à laver les impuretés du corps, l'extérieur, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Ma conscience était marquée, ma conscience était flétrie, abîmée par le péché, par mes faux raisonnements, par toutes sortes de choses qui faisaient que j'étais complètement perdu. Je ne savais plus ce qu'était le bien, je ne savais plus ce qu'était le mal. J'étais complètement livré à moi-même. Le Seigneur vient et il me change et il me guérit cette conscience intérieure. Et quand cette conscience est guérie, alors elle peut de nouveau être ce bon conseiller. Celui qui va nous encourager, celui qui va nous aider, celui qui va nous consoler, parce qu'il va nous rappeler les paroles de l'Écriture. Et ça, le Saint-Esprit, il parle à notre conscience qui elle-même va nous parler, nous faire du bien, nous avertir parfois, mais pour notre bien, parce qu'elle aura été bien forgée. Quelle paix, quelle sécurité pour celui qui a fait la paix avec Dieu. Je ne vais pas le lire parce que le temps presse, mais j'avais noté le psaume 91. Quelle paix quand on lit ce psaume. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que dans tes jours, tu es angoissé, tu es en inquiétude? J'évoquais en introduction ces inquiétudes et ces angoisses par rapport au temps qu'on vit. Et il y a de quoi être inquiet quand on n'a pas Dieu dans sa vie. Il y a vraiment de quoi. Mais quand on a Dieu dans sa vie, c'est la paix qui prévaut. C'est la tranquillité, c'est le repos qui prévaut parce qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. On sait qu'il est souverain, qu'il conduit toutes choses. Et que je sois malade, que je ne sois pas malade, c'est Dieu qui gère. Et quand j'ai un projet et que Dieu dise oui, merci Seigneur, et que j'ai un projet et que Dieu dise non, merci Seigneur aussi. C'est la sécurité de l'enfant qui n'a pas à s'occuper de quoi il va être habillé, de quoi et comment il va payer ses impôts. L'enfant, il ne se soucie pas des taxes qu'il va devoir donner. Il ne se soucie pas du travail qu'il va faire. Il fait quoi? Il dit, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Et il ne fait pas le repas en plus. Enfin, pour certains, peut-être, j'espère. Et si on se comportait de la même manière en tant qu'enfant de Dieu? Seigneur, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Et si je mettais au placard toutes ces inquiétudes, toutes ces angoisses? Quand j'ai été marqué par le Seigneur, toutes ces choses, on peut les mettre dehors. Et la Bible nous encourage à le faire en plus. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur nous promet. Il nous promet le repos, la paix pour qui s'approche de lui. Et c'est pour ça que Dieu nous a changés. Frères et sœurs, chers amis, quelle marque tu portes? Est-ce que tu portes la marque du péché? Qui t'amènera à la mort, Ou est-ce que tu ne voudrais pas goûter à cette autre marque? Est-ce que tu ne voudrais pas que le Seigneur vienne te toucher? Il y avait un chant prévu, c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait, mais bon, ce n'est pas grave. Et il disait ceci, viens toucher ma vie. Et si c'est ça le cœur, Seigneur, viens me toucher, viens me marquer de ta présence, de ton esprit, pour que tu puisses vraiment, que je puisse surtout être confiant, être dans la paix, la tranquillité, parce que c'est tout ce que Dieu veut. C'est tout ce que Dieu veut pour nous. Il veut te toucher pour te faire du bien. Il veut te toucher pour te guérir de tes mauvais fonctionnements, de tous tes raisonnements, de toutes tes inquiétudes. Peut-être pour ceux qui sont engagés, je laisse un dernier texte. Et je nous laisserai les uns et les autres dans la réflexion. Lisons ensemble Galates, chapitre 6. J'ai décrit tout à l'heure les marques de Jésus à cause de notre péché. Et l'apôtre Paul en parle. Et regardez ce que Paul dit. Sachant que quand Paul dit ça, il est, je vous assure, parce qu'il le dit aussi, il est dans la paix, il est dans le repos, il est dans la tranquillité. Quoique, verset 17, il dit, je ne suis pas dans la bonne épître, que personne ne me fasse de la peine. Il avait le souci des églises, le fardeau des églises. Et quand il voyait qu'il y avait des choses qui ne se passaient pas bien dans l'église, ben il était en peine de voir des frères, des sœurs qui n'arrivaient pas à prendre la victoire, des frères et sœurs qui se disputaient, des frères et sœurs qui s'inquiétaient alors qu'ils ne devraient pas, etc., etc. Ça lui faisait de la peine parce qu'il voyait des gens qui restaient là et qui tournaient en rond. Et il s'est dit, mais c'est dommage, c'est à ta portée et tu pourrais avancer au lieu de tourner en rond, mais tu vois pas, tu prends pas. Tu n'es pas au bénéfice de ce que Dieu voudrait te donner parce que tu restes là, planté. Et l'apôtre Paul, ça lui faisait de la peine de voir des frères et sœurs qui restaient plantés parce que Dieu nous appelle à marcher, il nous appelle à avancer. Et il dit ceci, que personne ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères et sœurs, nous qui sommes peut-être en responsabilité dans l'Église, qui sommes engagés, et je suis concerné, je me pose la question, est-ce que Seigneur je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à être marqué aussi de cette manière? Pour faire quoi? Quand l'apôtre Paul était ainsi marqué, c'était dans le cadre de son action pour le Seigneur. C'était dans le cadre de sa foi. Et nous, des fois, on est là, oui, je suis insulté au travail, et puis voilà, et ça m'énerve, et oui, ceci, cela qui ne va pas, et pourtant, Seigneur, je suis fidèle, il m'arrive ça, et on est tout le temps en train de se plaindre, parce qu'on n'a pas les yeux au bon endroit. Et si on commençait à changer de regard sur ce que Dieu permet qu'on puisse traverser des difficultés. On partageait hier avec ma famille qui est là ce matin, et on partageait hier ensemble et on se disait, mais des fois il y a des situations, Dieu nous permet des difficultés, des problèmes de santé, parce que Dieu veut nous maintenir en vie. On n'arrive pas à le comprendre. La dernière fois j'ai prêché sur Job, c'est exactement ça. Dieu peut permettre parfois des marques, et des fois c'est pour nous, mais des fois c'est pour les autres. Et l'apôtre Paul, il était marqué parce que dans le cadre de ce qu'il faisait pour le Seigneur, il amenait des personnes à Christ, il gagnait des âmes. Et pour cela, il était lapidé, il était traîné en justice, il était fouetté, il était battu. Lui aussi a porté les marques du Seigneur Jésus. Vous allez me dire, c'est pas joyeux le sort qui nous attend avec la vie éternelle. Mais là, pourtant, Paul, je peux vous dire qu'à l'intérieur, il allait bien. Il avait tout gagné. Il avait tout gagné. Parce qu'il avait compris que l'important, ce n'était pas cette petite vie sur la terre. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Mais l'important, c'est la grande vie qui nous attend dans le ciel avec lui, auprès de lui. Frères et sœurs, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. On est dans une actualité qui nous tracasse. Ok. Mais ce n'est pas ça qui doit nous focaliser. On doit regarder au Seigneur. Et celui qui regarde au Seigneur, il le sera dans cette paix, cette sécurité, parce qu'il verra le grand Dieu souverain qui règne même sur les nations. La Bible dit, on l'a cité la semaine dernière, que le cœur des rois est comme un courant d'eau que l'Éternel dirige à son gré. Proverbe 21, verset 1. C'est des versets qui sont importants de connaître. Parce qu'on relativise sur beaucoup de choses. Le Seigneur, est-ce qu'il nous appelle à manifester? Je ne pense pas. Il nous appelle à prier. Seigneur, je veux prier pour ce pays. Je veux prier pour cette nation. Seigneur, je veux prier pour que ton règne vienne. Seigneur, je veux prier pour que le jour où tu reviendras, je sois resté fidèle. Seigneur, aide-moi. Et que je puisse porter ta bannière. Non seulement que je sois marqué, mais que j'en fasse mon drapeau. Seigneur, c'est ta marque, Seigneur, que je veux porter et que je veux afficher fièrement en Algérie en ce moment. Mais chacun porte son drapeau. Mais nous, est-ce qu'on le porte, le drapeau? Est-ce qu'on nous porte la bannière de Christ sur notre cœur, sur notre vie? Oui, ça peut nous valoir des soucis, mais on a un trésor en nous et on voudrait le garder pour nous. Le Seigneur permet qu'on puisse voir des personnes qui n'ont pas le Seigneur, qui sont en perdition, et il les met sur notre route. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je sois moi-même, alors que le Seigneur a changé mon cœur, que je puisse librement porter la bannière, fièrement, la marque que le Seigneur m'a donnée? On rend grâce au Seigneur, on le prie ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas rester des personnes qui ne réalisent pas ce que tu as fait. Et encore une fois, on te demande de nous aider à le comprendre. On le sonde et on voudrait le comprendre et on le comprendra là-haut. Merci Seigneur. Seigneur, je te prie pour que nous tous qui sommes là cet après-midi, ce matin, tu puisses nous garder, tu puisses nous aider à nous approcher de toi, à te considérer. Et si quelqu'un ce matin n'a pas fait la paix avec toi, n'a pas reçu cette bonne marque que tu veux nous donner, vraiment je te prie Seigneur pour que tu puisses te révéler au cœur. Je te prie Seigneur pour que nous qui sommes chrétiens, qui sommes engagés, tu puisses nous renouveler à nouveau dans notre esprit, de telle manière que nous puissions réaliser que tu nous appelles à marcher dans tes traces. Seigneur, aide-nous à marcher dans tes pas. C'est ce que nous désirons, parce que nous voulons te ressembler, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, et nous te remercions parce que c'est par ta grâce que nous avancerons. Gloire à ton nom, Père. Amen. Bon, le temps a avancé.